Bonjour à tous et à tous. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, édition du vendredi 31 mai 2024. En direct de Washington, Rosine Monezero. Pour commencer, les titres. Au Mali, ouverture d'une enquête après la mort de 9 jeunes candidats à l'armée dans le nord du pays. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a rétabli l'ancien hymne national adopté à l'indépendance du pays. Washington impose des sanctions économiques à l'encontre de 2 entreprises centrafricaines liées au groupe paramilitaire russe Wagner. Dans notre partie magazine, une organisation philanthropique du Texas, Bridgeway Foundation, exhorte les rebelles du nord-est de la RDC à abandonner les violences.
Nous essayons d'identifier partout où se trouvent les concentrations de l'ADF. Il y a des camps des ADF ou le passage des ADF.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Mali, un procureur à Bamako a annoncé l'ouverture d'une enquête après la mort il y a une dizaine de jours de 9 jeunes candidats à l'armée dans le nord du pays. C'est ce qui ressort d'un communiqué. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
D'après le communiqué signé du procureur de la République, Amadou Bokar Touré, ces 9 jeunes ont été abattus par des individus armés le 19 mai sur l'axe Goundam-Diré alors qu'ils se rendaient à Tombouctou pour les épreuves sportives en vue du recrutement des forces armées maliennes. Ils ont tous été tués par balle, a assuré une source sécuritaire locale qui affirme que l'attaque est l'œuvre d'un groupe affilié au groupe de soutien à l'islam et aux musulmans pour dissuader les populations civiles de toute collaboration avec l'armée. La mort de ces jeunes, abondamment commenté sur les réseaux sociaux, n'avait pas fait l'objet de communication officielle jusqu'alors, mais avait suscité l'émoi parmi les populations locales, surtout dans les villes de Diré et Goundam, où des hommages ont été rendus. Le Mali est en proie à des affrontements entre des groupes djihadistes et les forces gouvernementales, assistées par des éléments russes. Les 2 camps sont accusés de perpétrer de graves exactions contre les populations civiles.
L'Afrique du Sud attend les résultats des élections législatives tenues la veille. Les premières tendances encore partielles laissant entrevoir un recul historique de l'ANC au pouvoir depuis 30 ans. Avec 22% des votes comptabilisés, le Congrès national africain se plaçait sous la barre fatidique des 50% avec 42,3% des suffrages exprimés selon la commission électorale. Le plus grand parti d'opposition, Alliance démocratique, cumulé moins de 25%. Les radicaux de gauche des combattants pour la liberté économique rassemblaient près de 9% des voix et le petit parti Umkhonto Wesizwe du sulfureux ex-président Jacob Zuma en peu plus de 8%. Les résultats définitifs ne sont pas attendus avant le week-end. Le nouveau président du Sénégal, Bassirou Diomaye Faye, a jugé possible jeudi à Bamako et Ouagadougou une réconciliation entre la communauté des États ouest africains et les 3 pays du Sahel qui ont rompu avec la CDAO sous la conduite des gens qui les dirigent. M. Faye, investi en avril, s'est rendu jeudi chez le voisin malien avant d'atterrir au Burkina Faso, effectuant sa première visite dans 2 des 3 États qui, avec le Niger, ont annoncé en janvier leur sortie de la CDAO. M. Faye a dit avoir longuement parlé de la CDAO avec le chef de la junte malienne, le colonel Assimi Goïta. La position malienne, quoique rigide, n'est pas totalement inflexible, a-t-il dit à la presse aux côtés du colonel Goïta. Le président nigérian Bola Ahmed Tinubu a rétabli l'ancien hymne national du Nigeria adopté à l'indépendance du pays. Cette décision a provoqué la colère d'une bonne partie de la population qui s'interroge sur les priorités du chef de l'État alors que le pays fait face à l'une de ses pires crises économiques depuis des années. Le point avec Nani Talani.
D'après le président Bola Ahmed Tinubu, revenir à l'ancien hymne national appelé « Nigeria, we hail thee, Nigeria, nous te saluons » permet de rendre hommage à la diversité de la nation, représentant tous les peuples. Le sénateur Tahir Monguno espère que cela favorisera le patriotisme et la coopération tout en traçant la voie vers une plus grande unité. Mais cet enthousiasme n'est pas partagé dans les rues d'Abuja, la capitale, où la population est plutôt en colère. Exaspérés par la situation, les Nigériens ont créé le hashtag « Not my national anthem », pas mon hymne national, pour exprimer leur frustration sur les réseaux sociaux. Le président devrait d'abord s'attaquer aux coupures de courant incessantes et aider à trouver des emplois, pense Nelson Ubi, jeune informaticien de 27 ans, se référant à une série de réformes économiques adoptées par Ahmed Tinubu et ayant entraîné un triplement des prix de l'essence et une hausse globale du coût de la vie. L'hymne Nigeria, nous te saluons, était utilisé entre 1960 et 1978, mais a été abandonné sous le gouvernement militaire dirigé par Olusegun Obasanjo.
Les combats dans l'est de la République démocratique du Congo entre les forces gouvernementales et la rébellion du M23 se sont rapprochés jeudi d'une ville stratégique du front nord du conflit, ont indiqué des sources locales. Le M23 est à 100 km du centre de Kanyabayonga, a déclaré par téléphone un responsable administratif. La ville est en train de se vider, a indiqué en début de soirée une autre source. Cité du Nord Kivu, à une centaine de kilomètres au nord de la capitale principale Goma, Kanyabayonga est considéré comme un verrou contrôlant vers le nord les accès aux villes de Butembo et Beni, fief de l'importante tribu Nandé et grands centres commerciaux du pays. Washington impose des sanctions économiques à l'encontre de deux entreprises centrafricaines liées au groupe paramilitaire russe Wagner, soutenu par Moscou, annonce faite hier par le département américain au Trésor dans un communiqué. Les précisions de John Lyndon.
Les entreprises Mining Industries et Logistique économique étrangère sont visées par ces sanctions pour leur rôle actif dans les opérations de sécurité du groupe Wagner et les efforts miniers illicites liés au groupe Wagner en Centrafrique, a précisé le Trésor américain. Ces deux entreprises ont joué un rôle essentiel dans ces activités, a précisé Matthew Miller, porte-parole du département d'État, dans un communiqué distinct. Le groupe russe Wagner a commis des violations généralisées des droits humains et s'est approprié des ressources naturelles dans plusieurs pays d'Afrique, a-t-il ajouté. Le Trésor précise que depuis son arrivée en Centrafrique en 2017, le groupe Wagner, soutenu par le Kremlin, et les sociétés autrefois contrôlées par Evgeny Prigogine, aujourd'hui décédé, ont établi un vaste réseau de sécurité et d'affaires en Centrafrique, entre autres pays africains. Washington a déjà sanctionné maintes entités et individus liés à Wagner et à d'autres groupes paramilitaires russes.
Le président béninois Patrice Talon a exprimé jeudi son incompréhension face au maintien de la fermeture de la frontière côté Niger qui entrave les échanges commerciaux entre les deux pays et en particulier l'exportation du pétrole nigérien via le littoral béninois. Les propos de Patrice Talon font suite à la prise de porte-parole du ministre béninois des Mines mercredi, Samou Seydou Adambi, qui s'est rendu à Niamey avec un message de Patrice Talon au général Abdourahmane Tiani à la tête du Niger depuis son coup d'État en juillet 2023. Mais ce dernier n'a pas voulu le recevoir, a déclaré le ministre mercredi soir lors d'un point de presse à Cotonou.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Les États-Unis ont dit hier condamner dans les termes les plus forts les tirs de missiles balistiques par la Corée du Nord qui menacent la sécurité régionale. Jacques Aristide.
Ces lancements s'inscrivent dans le prolongement du comportement irresponsable de la Corée du Nord, qui constitue une grave menace pour la péninsule coréenne, la région et la paix et la sécurité internationale, et qui compromet le régime mondial de non-prolifération, a déclaré Matthew Miller, le porte-parole du département d'État américain. Les États-Unis réaffirment que leurs engagements en faveur de la défense de la Corée du Sud et du Japon sont inébranlables, a-t-il ajouté. Hier, la Corée du Nord a tiré une salve de missiles balistiques de courte portée en direction de la mer de l'Est, également connue sous le nom de mer du Japon, quelques heures après avoir envoyé vers le Sud des ballons remplis d'immondices. Cela survient quelques jours après une tentative de mise en orbite d'un satellite espion par Pyongyang, dont l'échec a été annoncé lundi. Le Conseil de sécurité de l'ONU doit se réunir aujourd'hui pour discuter de cette tentative condamnée par Séoul, Tokyo ou encore Washington.
Les États-Unis ont annoncé jeudi imposer des sanctions contre 5 hauts responsables ougandais en raison d'accusations de corruption ou de violation des droits humains dans leur pays. 4 d'entre eux, dont la présidente du Parlement, ne peuvent plus voyager aux États-Unis en raison de faits de corruption significative. À présent, la Minute Éco avec John Lyndon.
Le Botswana, premier producteur mondial de diamants naturels, considère les diamants des laboratoires comme une menace pour son économie. C'est du moins ce qu'a déclaré mercredi le président Mokoti Masisi en prélude à sa participation au salon JCK à Las Vegas, considéré comme le plus grand événement au monde dans ce domaine. Selon l'agence Ecofin, les diamants représentent environ 33% du PIB du Botswana et 75% de ses recettes en devise. L'Afrique de l'Est devrait être la sous-région d'Afrique qui connaîtra la croissance la plus rapide en 2024 et en 2025, selon le rapport Perspectives économiques en Afrique 2024, publié jeudi par la Banque africaine de développement. Selon l'agence Ecofin, cette sous-région qui couvre 13 pays, notamment le Burundi, les Comores, Djibouti, l'Éthiopie, l'Érythrée, le Kenya, le Rwanda, les Seychelles, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, la Tanzanie et l'Ouganda, devrait enregistrer une croissance économique moyenne de 4,9% cette année et de 5,7% l'année prochaine. La croissance du PIB des États-Unis au premier trimestre 2024 a ralenti plus qu'initialement annoncé à 1,3% au lieu de 1,6% selon la deuxième estimation publiée jeudi par le département du commerce. Cette révision est cependant un peu moins forte qu'attendue puisque les analystes anticipaient une croissance de 1,2%. L'estimation finale sera publiée le 27 juin. La croissance du PIB avait été de 3,4% au quatrième trimestre 2023.
Place maintenant au sport avec Yakuba Ouedraogo. Bonjour Yakuba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Samuel Eto'o s'excuse et maintient le sélectionneur belge Marc Brice.
Oui, le président de la Fédération camerounaise de football a présenté ses excuses à l'entraîneur de la sélection nationale, le belge Marc Brice, qui l'avait invectivé et remplacé il y a 2 jours. Samuel Eto'o l'a aussi maintenu dans ses fonctions. Brice avait été nommé par le ministre des Sports sur une directive du président de la République Paul Biya, mais sa nomination avait été qualifiée d'illégale par la FECAFOOT. Eto'o l'avait remplacé mardi par un sélectionneur intérimaire après l'avoir sermonné dans une vidéo devenue virale. Je vous présente mes excuses, je serai à vos côtés pour les prochains matchs, lui a déclaré Eto'o au cours d'une conférence de presse hier jeudi. Dans le cadre des éliminatoires pour le Mondial 2026, le Cameroun joue contre le Cap-Vert et l'Angola les 8 et 11 juin.
Riyad Mahrez déplore son absence de la liste des joueurs retenus avec l'Algérie.
Cela me tenait à cœur d'être présent. Je respecte évidemment le choix du sélectionneur, mais je prends acte de cette décision, a écrit Riyad Mahrez. Le sélectionneur Vladimir Petkovic a convoqué un groupe de 25 joueurs pour les 2 prochains matchs de qualification au Mondial 2026, dans lequel ne figure pas l'ex-vedette des Fennec qui évoluait cette année à Al Ahly en Arabie Saoudite après 5 saisons passées à Manchester City. Nous avons discuté en mars. À ce moment-là, Mahrez avait demandé à ne pas participer. Nous avions convenu que dès qu'il serait prêt, il me contacterait. J'ai inclus Mahrez dans la liste élargie, mais n'ayant reçu aucun appel de sa part, je considère qu'il n'est pas prêt à revenir. La porte lui reste toujours ouverte, a expliqué M. Petkovic. L'Algérie doit affronter la Guinée le 6 juin à Alger, puis l'Ouganda le 10 en déplacement.
Gérard Piqué inculpé dans une affaire de corruption.
La justice espagnole a annoncé qu'elle enquête sur l'ex-défenseur du FC Barcelone pour son rôle dans la délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, qui lui rapporterait via sa société Cosmos 4 millions d'euros par an. La juge chargée de l'affaire pour corruption autour de contrats irréguliers conclus par la Fédération espagnole de football a estimé dans une ordonnance que cette commission annuelle envers Comos était potentiellement frauduleuse. Alors encore joueur du Barça, Gérard Piqué avait servi en 2019 d'intermédiaire via sa société dans l'accord de délocalisation de la Supercoupe d'Espagne en Arabie Saoudite, moyennant quelques 40 millions d'euros par an. Ce contrat est au cœur de cette enquête qui secoue le football espagnol, où l'ancien président de la fédération, Luis Rubiales, et son successeur, Pedro Rocha, sont tous les deux mis en examen.
Merci, Yacouba.
Le Monde, aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Rosine Munezero de retour avec vous pour les dossiers du jour. Une organisation philanthropique du Texas, Bridgeway Foundation, exhorte les rebelles du nord-est de la RDC à abandonner les violences. L'ONG largue par hélicoptère au-dessus de la forêt tropicale des centaines de milliers de brochures contenant des messages de sensibilisation. Thierry Kaoré pour les détails.
Pendant près d'une heure, l'Américain Caleb West, vêtu d'un gilet pare-balles, éparpille depuis son hélicoptère des brochures exhortant les rebelles ADF à se rendre. Monsieur West travaille pour la fondation Bridgeway, basée aux États-Unis, qui se décrit comme la branche caritative d'une société d'investissement du Texas. L'ONG affirme se concentrer sur la prévention, l'élimination et l'aide aux communautés pour qu'elles se remettent de la violence. L'hélicoptère survole les régions de Beni, Irumu et Lambassa, où les combattants de l'ADF ont établi des camps. Luc Nyanabo est le chargé des projets de la fondation Bridgeway à Beni.
Nous essayons d'identifier partout où se trouvent les concentrations de l'ADF, où il y a des camps de l'ADF ou le passage de l'ADF. Et nous utilisons les avions pour lancer les dépliants qui demandent à tout le monde de quitter la bouche.
La plupart des dépliants colorés dispersés dans la forêt montrent des photos souriantes d'anciens membres des ADF qui auraient été déradicalisés et réintégrés dans la société. Au verso, une carte de la région indique des points de rencontre pour les combattants qui souhaitent l'entrée chez eux et leur promet une aide gouvernementale. Luc Ndianabo, chargé des projets de la fondation Bridgeway à Beni.
Ils doivent passer par les centres pour être stabilisés. Ils subissent des séances de détraumatisation, de stabilisation, mais aussi des séances de déradicalisation. Vous savez que parmi les méthodes de l'ADF, ils peuvent relâcher les gens alors que c'est des personnes qui sont radicalisées et viennent travailler et restent dans la communauté au compte de l'ADF.
L'État islamique considère les ADF comme sa branche en Afrique centrale et a revendiqué près d'une centaine d'attaques dans la région depuis le début de l'année 2024. Des anciennes otages, dont les noms n'ont pas été divulgués pour leur sécurité, racontent leur calvaire lorsqu'elles ont été enlevées par les rebelles.
Ils nous ont enlevés avec mon mari en août, mais en décembre, mon mari a réussi à s'échapper lors d'une attaque. Malheureusement, je ne sais toujours pas s'il a été tué ou s'il est toujours en vie. Je n'ai aucune nouvelle de lui parce que je suis restée en captivité.
Ils ont appris aux garçons à manier les armes, mais le reste d'entre nous a appris le Coran, les rebelles nous disant que Dieu veut que le monde entier soit musulman. Ils insistaient sur ce point, et si quelqu'un refusait d'apprendre, il était ligoté. Il fallait partir à 5 heures du matin et revenir à 8 ou 9 heures du soir en répétant des passages du Coran.
La fondation Bridgeway collabore également avec les services de renseignement militaire congolais et ougandais pour retrouver Seka Moussa Baluku, le chef des ADF, dont la tête a été mise à prix pour 5 millions de dollars par les États-Unis.
Votre rendez-vous quotidien sur VOA Afrique à Goma, c'est sur 96.2 FM en République démocratique du Congo.
La contrebande d'or africain prend de l'ampleur selon l'ONG SwissAid. Chaque année, plusieurs centaines de tonnes d'or quittent l'Afrique vers Dubaï sans être déclarées. Cette pratique, qui a plus que doublé entre 2012 et 2022, impacte les économies, l'environnement et les droits humains. Eric Manilakiza, adjoint à Genève, Marc Hummel, responsable des matières premières au sein de SwissAid.
Et ce qu'on a vu dans notre rapport, c'est que ça fonctionne de différentes manières. Donc il y a différentes caractéristiques de cette exportation d'or de contrebande. D'une part, on voit que dans certains pays, l'or est extrait dans des mines artisanales. Il passe par certains comptoirs, des bureaux d'achat ou par certaines raffineries locales. Et il est ensuite exporté directement du pays, souvent en contrebande, directement vers les Émirats arabes unis ou les transporter en bagage à main par avion. Mais il y a aussi un autre phénomène qui est aussi lié à la problématique de la non-harmonisation fiscale justement entre les États africains. Et c'est justement quand vous avez des pays limitrophes qui ont une taxe à l'exportation qui est plus basse, c'est ce qui favorise justement le fait que certains traders font passer l'or par voie terrestre vers les pays limitrophes, d'où l'or est ensuite exporté soit en contrebande ou alors déclaré à l'exportation et très souvent de nouveau en bagage à main avant d'arriver à Dubaï.
Selon votre rapport, le phénomène de contrebande d'or africain a plus que doublé entre 2012 et 2022. Quels sont les principaux facteurs qui ont contribué à cette augmentation?
Oui, on a vu vraiment une explosion, je dirais, de la production d'or au cours des dernières années et lié à ça, évidemment, une forte augmentation de la contrebande de l'or qui a plus que doublé entre 2012 et 2022. Et tout ça est lié en grande partie au fait que le prix de l'or a augmenté massivement au cours des dernières années. En 2019, le prix d'un kilo d'or équivalait à environ 30 000 dollars et aujourd'hui, c'est plus de 70 000 dollars. Donc il y a eu un doublement du prix de l'or et c'est ce qui a créé une ruée vers l'or dans de nombreux pays, en particulier dans les pays du Sahel. On a vu que ça avait commencé avec le Soudan et ensuite ça s'était propagé vers le Mali, le Burkina Faso, la Guinée, la Mauritanie, le Sénégal. Et c'est ce qui fait qu'il y a énormément et même des millions de mineurs artisanaux en Afrique qui travaillent dans des conditions extrêmement difficiles.
Et quelles mesures spécifiques SwissAid propose-t-elle pour lutter contre ce trafic d'or? Quels sont les rôles des gouvernements africains, des entreprises internationales et des organisations comme la vôtre dans cette lutte?
Oui, je crois que pour arriver à mettre un terme à ces flux d'or illégaux, ou en tout cas à les réduire, il y a une responsabilité partagée. Il y a d'une part, évidemment, la responsabilité des États africains qui se doivent de s'engager dans la formalisation de cet or artisanal avec différentes mesures, notamment en améliorant l'accès au financement pour les mineurs d'or artisanaux, en essayant de mieux les encadrer au niveau de l'exploitation, de l'extraction de cet or en termes de sécurité, en termes de respect des droits humains, en termes de normes environnementales. Et ensuite, il y a évidemment toute la question des exportations, donc tous les contrôles au niveau des douanes, énormément de problèmes de corruption aussi africains. Et ensuite, il y a évidemment la responsabilité aussi des États importateurs, en particulier les Émirats arabes unis, mais aussi la Suisse, qui se doivent d'une part de faire davantage de contrôle sur cet or qui arrive sur leur territoire et de savoir comment cet or a été extrait.
Marc Hummel, responsable des matières premières au sein de SwissAid.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Sénégal, le lancement ce week-end d'une campagne de sensibilisation baptisée Skin Print. Son but, dénoncer à travers l'art et la mode les stigmatisations subies par les personnes atteintes de maladies de la peau comme l'albinisme ou encore le vitiligo. Et pour démarrer ce mouvement qui se veut inclusif, un défilé très spécial s'est tenu en plein cœur de la forêt. Le reportage de notre correspondante à Dakar, Alison Fernandez.
Dernier préparatif dans les backstage du défilé en plein cœur du parc forestier de Anna, Dakar. Aujourd'hui, des mannequins professionnels défileront aux côtés de débutants atteints notamment de troubles de la peau comme le vitiligo ou l'albinisme. Abdulaziz Sall, surnommé Zizou, n'en est pas à son coup d'essai. Il évolue dans le milieu du mannequinat depuis 7 ans. Il a même été élu Mister Albino Sénégal et fait régulièrement des photos publicitaires.
On arrive à faire passer nos messages précisément dans le domaine mannequinat. Parce que le fait de défiler, le fait de se voiler, de se montrer en tant que personne albinos, c'est quelque chose de magnifique et c'est quelque chose vraiment touchant qui pousse les gens à nous accepter dans le milieu.
C'est justement le but de ce défilé qui a lieu dans le cadre de la campagne Skin Print. Dénoncer les stigmatisations dont sont victimes les personnes atteintes de maladies de la peau et encourager l'inclusion. À l'origine de cette campagne, le styliste gabonais Roméo Moukani, installé à Dakar depuis plus de 10 ans.
Ça fait 3 ans, plus de 3 ans quand même, que le point de départ a été fait. Et pendant tout ce temps, il y a eu des rencontres, il y a eu une recherche personnelle de soi, parce que c'est aussi une manière pour moi de vaincre mes peurs, de vaincre la peur de la différence, de vaincre le regard des autres, tout ça.
Au Sénégal, de nombreux préjugés et fausses croyances sont associés à l'albinisme. L'an dernier, le CERD, Comité des Nations Unies pour l'élimination de la discrimination raciale, s'est dit préoccupé par la situation des albinos dans le pays, notamment leurs difficultés d'accès aux soins, à l'éducation et la santé, et même les violences physiques dont ils sont victimes.
J'ai envie de pleurer parce que je me suis mise à leur place. C'est des gens qui souffrent de problèmes de vue, pour ceux qui souffrent des problèmes de tâche aussi, comment s'accepter, comment s'intégrer dans la société. Donc je me suis mise à leur place et j'ai ressenti ce qu'ils traversaient. Et les voir beaux comme ça dans la nature, c'était apaisant en fait.
La campagne Skin Print se déroulera pendant plus d'un mois. Au programme, ce défilé, mais aussi des expositions photos, peintures ou encore des projections de films, des œuvres qui visent à questionner et défier les normes de la beauté. Alison Fernandez pour VOA Afrique, Dakar.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Forcé de fuir son pays en 2015 en raison de la crise politique au Burundi, Maggy Barankitse poursuit sa passion depuis le Luxembourg et dans les réfugiés burundais. À travers sa fondation, elle dit œuvrer sans relâche pour rendre la dignité et donner l'espoir aux plus vulnérables. Suivant cette interview, conduite par Roger Montaud et produite par Lionel Gahima.
Je reviens de Los Angeles, où je devais parler pour Aurora Prize, pour l'éveil de l'humanité. Donc chaque année, il y a ce prix, et comme j'ai été la première lauréate, j'ai profité de venir ici parce que je voudrais étendre ce message de l'amour pour l'humanité et commencer la fondation Maggy Barankitse, donc de droit donc américain. Et c'est ça qui m'a amené à rester 5 jours ici à Washington pour parler, pour voir comment je pourrais aussi étendre ce message, que ça ne reste pas, parce que nous sommes une même famille humaine. Bien sûr, ça fait plus de 45 ans que je travaille en Afrique. Bien sûr, tout le monde me dit, mais Maggy, tu rêves, tu ne pourras pas humaniser l'humanité comme tu veux. Mais moi, je dis, je suis comme le petit colibri. Donc, c'est ça qui m'amène ici, à aller dire au monde entier, c'est d'être stupide.
Oui. Comment avez-vous trouvé, Maggy, la force de continuer votre travail de paix après avoir été forcé de quitter le Burundi, votre pays d'origine? Et comment avez-vous géré, Maggy, cette transition pour aider les réfugiés, par exemple, au Rwanda?
Et en fait, personne ne peut arrêter l'amour. Moi, quand les personnes me disent, moi, j'abandonne tout, je dis, c'est que vous n'avez jamais compris qu'on n'arrête pas l'amour. Même le journaliste qui m'a accueilli à Zaventem à Bruxelles, quand je fuyais sans rien, je suis arrivée en Europe sans rien, avec un petit sac à main, avec mon petit chapelet, et c'est tout, et c'était tout, et ma Bible. Et puis, le journaliste me dit, mais madame, maintenant que vous avez tout perdu, j'éclate de rire. Je dis, j'ai la vie, je n'ai rien perdu, j'ai fui avec mon trésor, ma capacité d'aimer et ma capacité de recommencer tant qu'on a la vie. Comme Kipling le disait, quand tu verras que l'œuvre de tes mains d'un jour est détruite et tu recommences, tu seras un homme, mon fils. Moi, je dis aux personnes qui m'écoutent, cette force, je la puise de mon éducation, des valeurs d'Ubuntu, de ma maman qui me disait, n'oublie jamais, ma chère Maragarita, comme ça, que tu es une princesse et que tu as une couronne que personne ne peut te prendre parce que créée à l'image de Dieu, nous avons une vocation à nous-mêmes de co-créer. Nous sommes des co-créateurs. Alors, qui peut m'arrêter?
Le Monde Aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Rosine Monezero à son micro. Firmin Koyawida a assuré la production et la réalisation. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h/24. Je vous souhaite une excellente journée à l'écoute de nos programmes. Au revoir.